Au niveau quantique, notre univers peut être considéré comme un lieu indéterminé, statistiquement prévisible uniquement par le recours au très grand nombre. Entre cet univers et un autre relativement prévisible, où le passage d'une seule planète peut être annoncé à la picoseconde près, d'autres forces entrent en jeu. Pour l'univers intermédiaire où se situe notre vie de tous les jours, ce que je crois est une force prédominante. Nos croyances commandent le déroulement des événements quotidiens. Si nous sommes assez nombreux à y croire, nous pouvons causer l'existence d'une chose nouvelle. Les systèmes de croyances créent des filtres à travers lesquels le chaos se résout en ordre. Analyse du tyran, dossier Taratza, archive du Bene Gesserit. Les pensées de Teg étaient en effervescence, tandis qu'il retournait du vaisseau de la guilde à Gameux. Il descendit de la navette sur la bordure noircie du terrain d'atterrissage privé de la citadelle et regarda autour de lui comme si c'était la première fois. Il était presque midi. Si peu de temps avait passé et tant de choses avaient changé. Jusqu'où le Bene Gesserit était-il capable d'aller pour inculquer une leçon essentielle? Taratza avait bousculé ses processus familiers de Mentat. Il avait l'impression que l'incident à bord du vaisseau de la guilde avait été fabriqué uniquement à son intention. Il avait été délogé de son cours prévisible. Comme Gameux lui semblait étrange, tandis qu'il traversait la piste gardée en direction des puits d'entrée. Teg avait vu dans sa vie beaucoup de planètes. Il avait appris leurs coutumes et la manière dont elles imprégnaient leurs habitants. Certaines jouissaient d'un gros soleil jaune, toujours à proximité, qui baignait de chaleur et faisait évoluer et grandir tout ce qui vivait. D'autres n'avaient que de chétives étoiles scintillant du haut d'un ciel noir, émettant une pauvre lumière qui ne touchait presque rien. Entre les deux, et même en dehors, d'innombrables variations existaient. Gameux était une variété jaune-verte avec une journée de 31,27 heures standard et une orbite de 2,6 années standard. C'était une planète que Teg avait cru connaître parfaitement. Lorsque les Harkonnen s'étaient trouvés forcés de l'abandonner, des colons de la branche danienne, reliquat de la dispersion, étaient venus l'occuper en l'appelant Gameux, nom que lui avait donné Alec à l'occasion du grand remaniement cartographique. À l'époque, ces colons s'appelaient des Caladaniens, mais les millénaires ont parfois tendance à raccourcir les noms. Teg s'arrêta à l'entrée de la rampe qui conduisait dans les étages inférieurs de la citadelle. Il vit que Taratza et les autres traînaient le pas. La mère supérieure était en train de parler gravement à Odrad. « Le manifeste des Atréides », songea-t-il. Même sur Gameux, peu de gens se réclamaient de la lignée des Atréides ou de celle des Harkonnen. Bien que les génotypes fussent visibles partout, et en particulier celui dominant des Atréides. Long nez pointu, front haut et bouche sensuelle. Souvent les morceaux étaient dispersés, la bouche chez l'un, les yeux perçants chez l'autre, avec d'innombrables mélanges. Mais il arrivait qu'une seule personne réunisse tous ces traits. On la voyait alors fière de cette certitude intime, « je fais partie d'eux ». Les natifs de Gameux reconnaissaient cela comme une supériorité devant laquelle ils s'inclinaient, mais peu d'entre eux lui donnaient un nom. À côté de tout cela, il y avait l'héritage des Harkonnen. Les lignées remontant au temps perdu des Grecs, des Patanes et des Mamelouks, ombre d'une histoire ancienne que seuls quelques rares spécialistes ou étudiants formés par le Bene Gesserit pouvaient encore évoquer. Taratza et sa suite avaient rattrapé Teg. Il l'entendit dire à Odrad « Il ne faut rien cacher à Miles. » Très bien, qu'elles me disent tout. Il les précéda, passant entre les gardes, dans le long couloir incliné sous les réduits défensifs qui menaient à l'intérieur de la citadelle. Maudit Bene Gesserit, que font réellement les sœurs sur cette planète? Partout, les marques du Bene Gesserit étaient visibles sur Gameux. Les sélections étaient multipliées pour fixer certains traits. Ça et là, l'emphase était perceptible dans les yeux séducteurs des femmes. Teg rendit son salut à une capitaine de la garde sans tourner la tête. Des yeux séducteurs, oui. Il l'avait remarqué dès son arrivée à la citadelle du Gola, et particulièrement durant sa première tournée d'inspection sur la planète, où il avait été étonné de rencontrer plusieurs fois son propre visage. Le vieux Patrine le lui avait dit souvent. « Vous avez la tête de Gameux, Bachar. » Ses yeux séducteurs, la capitaine de la garde qu'il venait de croiser les avait, de même que Lucille et Odrad. Peu de gens font attention au regard quand il s'agit de séduction. Il fallait une éducation Bene Gesserit pour s'en rendre compte. Une grosse poitrine chez une femme, un ventre dur chez un homme, avec un fessier bien musclé, ce sont des points naturellement importants dans les appariements sexuels. Mais sans les yeux, le reste n'est rien. Les yeux sont l'essentiel. Teg avait appris qu'on pouvait se noyer dans certains yeux, s'y laisser sombrer sans se rendre compte de ce qu'on était en train de vous faire jusqu'à ce que pénis et vagin fussent étroitement verrouillés l'un dans l'autre. Il avait remarqué les yeux de Lucille immédiatement après son arrivée sur Gameux, et il s'en était tenu à distance prudente. Aucun doute sur la manière dont le Bene Gesserit utilisait ses talents. Elle était là, justement. Elle les attendait dans le bloc central d'examen et de décontamination. Elle lui fit, dès qu'elle le vit, un signe de main qui signifiait que tout allait bien pour le gola. Teg se sentit soulagé. Il observa avec curiosité la rencontre entre Lucille et Odrad. Elles se ressemblaient, malgré la grande différence d'âge, encore plus qu'il ne l'avait pensé. Le corps, bien sûr, n'était pas le même. Lucille était bien plus en chair que la frêle Odrad. La capitaine de la garde aux yeux séducteurs se rapprocha de lui et lui parla à l'oreille. « Shuangyu vient d'apprendre qui vous avez ramené avec vous. Elle arrive. » Shuangyu émergea un instant plus tard d'un tube de montée et, n'accordant qu'un seul regard courroucé à Teg, se dirigea vers Taratsa. « Nous savons tous pourquoi Taratsa voulait la surprendre, » se dit Teg.
« Vous n'avez pas l'air enchanté de me voir ici ?»
dit Taratsa en s'adressant à Shuangyu.
« Je suis simplement surprise, mère supérieure. Je ne m'y attendais pas du tout. »
Une nouvelle fois, Shuangyu lança un regard venimeux à Teg. Pendant ce temps, Odrad et Lucille s'étaient dévisagés sans rien dire.
« J'avais entendu parler de cette ressemblance, naturellement, » déclara enfin Odrad. « Mais c'est stupéfiant de voir ainsi son visage reflété dans celui d'une autre personne. »«
Je vous avais prévenu, » dit Taratsa.
« Quels sont vos ordres, mère supérieure ?»
demanda Shuangyu. Il lui était impossible de s'enquérir plus directement des motifs de cette visite impromptue.
« Je voudrais dire un mot en privé à Lucille, » fit Taratsa.
« Je vais vous faire préparer un appartement. »
« Ne vous donnez pas cette peine, je ne reste pas. Miles a déjà pris des dispositions pour mon départ. Ma présence est requise au chapitre. Lucille et moi, nous parlerons dans la cour. »
« Oh !»
ajouta-t-elle en mettant un doigt sur sa joue.
« J'aimerais observer le gola sans qu'il me voie pendant quelques minutes. Je suis sûre que Lucille pourra s'en occuper. »
« Il suit l'entraînement le plus intense avec beaucoup de facilité, »
expliqua Lucille, tandis que les deux femmes s'éloignaient vers un tube de descente. Teg reporta son attention sur Odrad, non sans noter en passant l'intensité de la fureur qui se lisait sur le visage de Shuangyu et qu'elle n'essayait même pas de dissimuler. Lucille était-elle la sœur ou la fille d'Odrad? Il vint subitement à l'idée de Teg que cette ressemblance servait les desseins du Bene Gesserit.
Mais oui, évidemment, Lucille était une imprégnatrice.
Shuangyu semblait avoir dominé sa colère. Elle regardait Odrad avec curiosité.
« J'allais justement déjeuner, » lui dit-elle. « Voudriez-vous vous joindre à moi ?»«
Il faut que je parle en privé au Bachar, » répondit Odrad. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions avoir cet entretien ici même. Il ne faut pas que le gola m'aperçoive. »
Shuangyu fit la grimace sans essayer de cacher son animosité envers Odrad. Il savait au chapitre de quel côté penchait la loyauté de chacune. Mais personne, personne ne la délogerait de ce poste d'observation et de commandement. L'opposition avait aussi ses droits. Ce qu'elle pensait était clair, même pour Teg. Il remarqua la raideur de son dos lorsqu'elle les quitta.
Il est navrant que des sœurs se tournent contre d'autres sœurs, dit Odrad.
Teg fit un signe de main à la capitaine de la garde pour qu'elle se retire. Odrad avait dit, en privé,
ce serait en privé.
Il s'adressa à la révérende mère. « C'est un de mes endroits sûrs. Nous pouvons parler sans crainte d'être épiés. »
« Je le pensais bien, » dit Odrad.
« Il y a là-bas une chambre de service, » proposa Teg en désignant un endroit sur sa gauche. « Avec quelques meubles, même des canisièges, si vous préférez. »
« Je déteste qu'il me pelote. » nous ne pourrions pas parler ici ?
Ajouta-t-elle en prenant le bras de Teg.
Nous pourrions faire quelques pas. J'ai les muscles raidis d'être restée assise dans cette maudite navette.
Quelle est cette chose que vous êtes censée avoir à m'expliquer ? Demanda-t-il tandis qu'il marchait lentement.
Mes souvenirs ne sont plus sélectivement filtrés. Je les ai tous récupérés, uniquement du côté féminin, bien sûr.
Et alors ? Teg plissa les lèvres. Ce n'était pas l'entrée en matière qu'il attendait. Audrad était plutôt du genre à aller droit au but.
Taratza a dit que vous aviez lu le manifeste des Atreides. Parfait. Vous savez que cela va faire du bruit dans certaines sphères.
Shvangyu en a déjà fait un sujet de diatribe. Vous autres, les Atreides.
Audrad le dévisagea avec gravité. Comme le disaient les rapports, Teg demeurait une figure imposante. Mais elle l'avait su sans avoir besoin de lire les rapports.
« Vous et moi sommes des Atreides, » dit-elle.
Teg dressa subitement l'oreille.
« Votre mère vous expliquait tout cela en détail, »
poursuivit Audrad.
« La première fois que vous êtes revenu de l'école en vacances sur l'Ernaeus. »
Teg s'arrêta et baissa les yeux vers elle. Comment pouvait-elle connaître un tel détail ? À sa connaissance, il n'avait jamais rencontré auparavant cette Darvi Audrad. Faisait-il l'objet de discussions spéciales sur la planète du chapitre ? Il demeura silencieux, l'obligeant à poursuivre la conversation.
« Je vais vous répéter mot pour mot ce qu'un homme a dit un jour à ma mère naturelle, » fit Audrad. « Voilà, ils sont au lit et c'est l'homme qui parle. J'ai engendré un certain nombre d'enfants lorsque j'ai cru échapper la première fois à l'emprise du Bene Gesserit. Je me voyais indépendant, en possession de tout mon libre arbitre et en droit de mener les combats de mon choix. »
Teg ne chercha pas à dissimuler sa surprise. Ces paroles, c'était lui qui les avait prononcées. Sa mémoire de Mentat lui disait qu'Audrad les avait enregistrées aussi fidèlement qu'une machine, jusqu'à l'intonation.
« Vous en voulez encore ? »
demanda-t-elle, voyant qu'il continuait à la dévisager.
« Très bien, c'est toujours l'homme qui parle. » Tout ça, c'était avant qu'on m'envoie suivre une formation de Mentat, évidemment. Comme cela m'a ouvert les yeux, pas un instant les sœurs ne m'avaient perdu de vue. Jamais je n'ai eu mon libre arbitre.
Pas même lorsque j'ai prononcé ces paroles, dit-il.
C'est exact.
Elle accentua la pression de ses doigts sur son bras, tandis qu'il continuait à déambuler.
Tous les enfants que vous avez engendrés, reprit-elle, appartiennent aux Bene Gesserit. La communauté ne veut pas prendre le risque de laisser se noyer notre génotype dans le patrimoine génétique commun.
Que mon corps aille à Shaitan. Les sœurs s'en fichent pourvu que leur précieux génotype demeure sous leur garde.
Ma garde, fit Audrad. Je suis l'une de vos filles.
De nouveau, il la força à s'arrêter.
Je pense que vous savez qui était ma mère,
ajouta Audrad, en levant la main pour l'empêcher de parler.
Inutile de prononcer son nom.
Teg étudiait les traits d'Audrad. Il y reconnaissait certains signes. La mère et la fille se ressemblaient. Mais Lucille dans tout cela.
Lucille provient d'une lignée parallèle, expliqua Audrad, devinant sa pensée. C'est remarquable, n'est-ce pas, ce que l'on peut obtenir par des sélections rigoureuses.
Teg se racla la gorge. Il ne se sentait aucune attache émotionnelle avec cette fille nouvellement révélée. Ce qu'elle disait, ainsi que d'autres signes plus subtils de son comportement, mobilisait par contre toute son attention.
Vous ne me faites pas ces révélations par hasard, dit-il. Cela fait-il partie de ce que la mère supérieure vous a demandé de...
Il y a autre chose, interrompit Audrad. Ce manifeste. J'en suis l'auteur. Je l'ai écrit sur l'ordre de Taratza et selon ses instructions détaillées.
Teg jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre.
Les clés là-dessus, dit-il d'une voix plus basse. Ils sont en train de le diffuser partout.
Comme nous l'espérions.
Pourquoi me dites-vous tout cela ? Taratza vous a seulement demandé de me préparer à...
Le moment va venir où il faudra que vous soyez au courant de nos plans. Taratza désire que vous puissiez prendre vos propres décisions, c'est-à-dire que vous possédiez l'intégralité de votre libre arbitre.
Tout en parlant, Audrad vit le regard de Teg devenir trouble, comme celui d'un Mentat plongé dans ses computations. Il respirait à fond et lentement. Dépendance et bûche maîtresse. Il sentait l'existence d'une énorme trame de Mentat, juste à la limite des données qui s'accumulaient. Il ne lui était pas venu un seul instant à l'idée que c'était une forme de loyauté filiale qui avait motivé les révélations d'Odrad. Dans tout ce qui était soumis à l'influence du Bene Gesserit, il y avait une essence fondamentalement dogmatique, voire ritualiste, en dépit des efforts constants des sœurs pour l'éviter. Odrad, cette fille qui venait de surgir de son passé, était une révérende mère à part entière, dotée d'extraordinaires pouvoirs de maîtrise nerveuse et musculaire. Sans compter à ses propres dires, la mémoire au complet de ses ancêtres côté femme. Elle faisait partie des toutes spéciales. Elle savait user de techniques de violence dont peu d'humains connaissaient l'existence. Et pourtant, cette similitude, cette essence demeurait. Et un Mentat ne pouvait éviter de s'en rendre compte. Que veut-elle? Confirmation de ma paternité? Elle a déjà toutes les preuves qu'elle peut désirer. Observant la manière dont elle attendait, patiente, que ses pensées se résolvent, il songeait à ce que l'on disait souvent, non sans raison, des révérendes mères. Qu'elle ne faisait plus tout à fait partie de la race humaine. Elle se tenait en quelque sorte en dehors du courant principal. Elle le longeait sans doute. Elle y faisait sans doute de fréquentes plongées pour des motifs à elle, mais elle se tenait à l'écart de l'humanité. Elle s'en éloignait. C'était l'une des marques d'identité des révérendes mères, cette impression qu'elle donnait d'avoir une dimension de plus. Cela les rendait en vérité plus proches du tyran depuis longtemps disparu que de la souche humaine dont elles étaient issues. La manipulation, c'était leur marque principale. Elles manipulaient tout et tout le monde. « Je dois servir Dieu au Bene Gesserit, » dit-il à haute voix. « Taratza veut que je prenne une décision humaine pour vous toutes. » Visiblement satisfaite, Odrad lui serra le bras. « J'ai un sacré père. »«
Êtes-vous sûr d'avoir un père ?»
Il lui exposa ce qu'il venait de penser sur le Bene Gesserit et la manière dont l'ordre s'éloignait de plus en plus de l'humanité.
« En dehors de l'humanité, » dit-elle. « Quelle drôle d'idée! Croyez-vous que les navigateurs de la guilde soient aussi à l'écart de leur humanité originelle ?»
Il médita là-dessus. Les navigateurs de la guilde différaient largement de la forme humaine traditionnelle. Nés dans l'espace, vivant toute leur vie dans des bacs de mélange gazeux, ils avaient des membres et des organes déformés, étirés, qui n'étaient plus à la même place. Mais un jeune navigateur dans sa phase australe, avant d'être placé dans un bac, pouvait se croiser avec des normaux, c'était prouvé. Les navigateurs de la guilde étaient peut-être devenus non-humains, mais pas de la même manière que le Bene Gesserit.
« Ils ne sont pas mentalement comme vous, » répondit-il. « Ils pensent comme des humains. Guider un vaisseau à travers l'espace, même en utilisant la prescience pour trouver le bon chemin, représente un type de comportement qu'un humain peut accepter. »«
Vous n'acceptez pas le nôtre ?»«
Autant que faire se peut. Mais j'ai l'impression qu'à partir d'un certain stade d'évolution, vous déviez complètement du type normal. Je crois que vous faites un effort conscient pour vous donner seulement une apparence humaine. » La manière dont vous me tenez le bras en ce moment, par exemple. Comme si vous étiez réellement ma fille.
Je suis votre fille, mais je suis surprise que vous ayez une si piètre opinion de nous.
Bien au contraire. Je vous respecte et vous me faites peur.
Peur de votre propre fille?
De toutes les révérendes mères.
Vous pensez que je ne suis là que pour manipuler des créatures inférieures?
Je pense que vous n'avez plus de sentiments humains. Il y a un vide chez vous, quelque chose qui manque. Que vous avez enlevé vous-même. Vous ne faites plus partie de nous.
Je vous remercie, dit Odrad. Taratza m'avait prévenu que vous n'hésiteriez pas à me répondre franchement, mais je le savais déjà par moi-même.
À quoi m'avez-vous préparé?
Vous le saurez au moment où cela se produira. C'est tout ce que je peux dire, tout ce que j'ai le droit de dire.
Encore des manipulations, songea-t-il. Maudite sœur.
Odrad s'éclaircit la voix. Elle semblait sur le point de dire quelque chose, mais elle demeura silencieuse tout en continuant de marcher aux côtés de Teg sans lui lâcher le bras. Elle savait qu'il fallait qu'il dise ces choses-là, mais elle se sentait peinée. Elle aurait voulu lui expliquer qu'elle faisait partie de celle qui se sentait encore humaine. Fondamentalement, cependant, son jugement sur le Bene Gesserit était justifié. On nous apprend à rejeter l'amour. Nous savons le simuler, mais chacune de nous est capable de l'étouffer en un instant. Ils entendirent des bruits derrière eux. Ils s'arrêtèrent et se retournèrent. Lucille et Taratza émergèrent d'un tube de montée. Elles parlaient du Gola qu'elles venaient d'observer.
Vous avez entièrement raison de le traiter comme l'un de nous, disait Aratza.
Teg les avait entendus, mais ne fit aucun commentaire tandis qu'elle s'approchait d'Odrad et de lui.
Il sait, se disait Odrad. Il ne va rien me demander sur ma mère naturelle. Il n'y a eu aucun lien créé, aucune imprégnation. Bien sûr qu'il sait.
Odrad ferma les yeux et la mémoire la prit au dépourvu en formant spontanément l'image d'un tableau de peinture. L'objet était accroché au mur dans le petit salon de Taratza. La technologie Ixienne l'avait préservé à l'intérieur d'un cadre hermétiquement scellé par une feuille de place invisible. Odrad s'arrêtait souvent devant ce tableau. Elle avait l'impression chaque fois qu'elle n'avait qu'à tendre la main pour toucher l'antique toile si magnifiquement conservée par les Ixiens.
Chaumière à Cordeville.
Le titre de l'œuvre et le nom de l'artiste étaient immortalisés sur une petite plaque polie au-dessous du tableau.
Vincent Van Gogh.
Cela datait d'une époque si reculée que seuls quelques rarissimes vestiges comme celui-ci demeuraient pour la représenter physiquement à travers les âges. Elle avait essayé d'imaginer les voyages que ce tableau avait accomplis, les successions de hasards qu'il avait fait échouer intact dans le salon de Taratza. Les Ixiens s'étaient surpassés dans cette restauration. En mettant le doigt sur une pastille noire dans le coin inférieur gauche du cadre, on était immédiatement emporté par le génie non seulement de l'artiste, mais aussi de l'Ixien qui avait restauré et préservé le tableau. Son nom figurait également sur le cadre, Martin Bourreau. Quand un doigt humain touchait la pastille noire, elle jouait le rôle de projecteur sensoriel, un dérivé de la technologie qui avait donné les fameuses sondes ixiennes. Bourreau avait restauré non seulement le tableau, mais aussi le peintre, avec toutes les impressions qui accompagnaient chaque coup de pinceau. Tout avait été capturé dans les mouvements du maître et enregistré pour le plaisir complet de l'observateur. Odrad était restée si souvent en contemplation d'un bout à l'autre de l'exécution qu'elle avait presque l'impression de pouvoir recréer indépendamment le chef-d'œuvre. Le souvenir de cette expérience, sur le coup des accusations portées par Teg, avait une signification évidente pour elle. Elle savait pourquoi ce tableau l'avait toujours fascinée. Pendant le bref déroulement de l'enregistrement, elle se sentait toujours intégralement humaine, en harmonie avec ses chaumières où des gens réels avaient vécu, en harmonie avec la totalité de la chaîne de vie, qui, en la personne du peintre fou Van Gogh, s'était arrêtée ici. Juste le temps de s'enregistrer à jamais dans la mémoire de la race humaine. Taratza et Lucille s'immobilisèrent à deux pas de Teg et Odrad. La laine de Taratza sentait l'ail.
« Nous avons profité de l'occasion pour manger quelque chose, » dit Taratza. « Avez-vous un désir ?»
C'était ce qu'il ne fallait pas dire. Odrad lâcha soudain le bras de Teg. Elle se détourna et s'essuya les yeux avec sa manche. Quand elle regarda de nouveau Teg, elle lut la surprise sur son visage.
Oui, ce sont de vraies larmes, pensa-t-elle.
Je crois que nous avons fait ici tout ce que nous pouvions, déclara Taratza. Il est temps pour vous de retourner sur Rakis, Dar.
Plus que temps, répondit Odrad.